Chiz 94.3 FM à Québec. Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose. Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Midi 30 secondes. Bon midi à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de Chiz 94.3. Félix-Antoine Audet qui vous accompagne pour la prochaine heure d'information. Vous écoutez Les Affamés. Et comme à l'habitude, je suis très, très, très bien accompagné. Rosalie Chabot, comment vas-tu?
Bonjour Félix, ça va bien, merci toi.
Ah, ça va très, très bien. Surtout que moi, je suis arrivé en studio avant que le vent se lève.
Ouais, moi j'ai marché de mon pavillon jusqu'au studio et je peux confirmer que c'était pas très chaud.
Oui, tu rentres, il fait froid tout. Je
le nez me coulait, les joues rouges, mais bon, c'est la réalité de l'hiver qui s'installe lentement mais sûrement.
Pour moi, c'était une belle journée, ensoleillée, superbe. Puis non, là, tu viens de me rappeler qu'il y avait du vent annoncé de façon assez majeure. Donc, c'est assez trompeur, là, notre thermomètre à l'écran télévisuel de Chiz qui me dit moins 4 parce que pas mal sûr que le refroidissement éolien n'est pas considéré.
Peut-être que le ressenti n'est pas moins 4, effectivement.
Ouais, c'est peut-être plus ça le problème. Donc, bon courage à tous ceux qui sont à l'extérieur présentement, travailleurs extérieurs ou simples courageux marcheurs avec la radio dans les oreilles. Ben, on est avec vous, on pense à vous.
Tout à fait.
Mais moi, je suis au chaud puis je suis bien. Je vais pas trop changer ma position. Dommage parce que ça avait bien commencé comme journée. Là, c'est effectivement le vent qui va venir compliquer les choses. Donc, on surveille ça. C'est assez nuageux aujourd'hui, sinon.
Oui,
à part,
mais le soleil est dans vos cœurs.
Quand j'étais metteur en ondes dans une autre station de radio privée,
oui.
C'est à ce genre de moment-là où j'établissais ma culture du bullying.
Ah.
Puis je fermais le micro de la personne.
Ah. Ben,
malheureusement.
C'est moi la console aujourd'hui, donc je n'ai pas fermé mon micro, mais je prends note que c'était pas la meilleure.
Fais juste te le dire, ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai le goût de faire. Il y a comme un petit réflexe qui me pogne, j'ai le goût de peser sur le piton. Oh, c'est bien un des seuls défauts de ne plus être à la mise en onde. Non. Bien heureux donc de commencer cette émission. Comment a été ta semaine, Rosalie? Fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, je m'ennuie.
Mais je te comprends, moi aussi. Comme je vais dire ça à chaque fois, mais je trouve que le temps passe de plus en plus vite. Moi, j'approche la fin de session, donc c'est sûr que j'ai l'impression que mes jours sont remplis et pourtant j'avance pas assez.
Ah, c'est hallucinant. C'est mon dernier cours de japonais ce soir.
Ah,
j'avais
oui!
fini ma première session pour mes premiers cours de japonais.
Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu.
Je me souviens même pas ce que ça veut dire.
C'est un merci poli.
Bon, ben merci Félix pour tes cours de japonais. J'espère que tu sauras transférer ta culture à d'autres.
Ah, mais j'ai l'intention là, de suivre ça pendant quelques années. Là,
ah, intéressant.
Japonais, là.
Non, intéressant.
Non. J'ai décidé que j'allais être fluide. Là.
Ah, fluide. En
oui,
plus,
je veux être fluide.
Un beau défi.
Oui, je suis un peu trop perfectionniste dans des dossiers comme ça, mais ça m'importe beaucoup. J'adore cet apprentissage de la langue. Et là, toutoum, parlant d'apprentissage de langue.
Je savais que tu allais faire ce parallèle.
C'était si simple, si facile. On va ouvrir ce show sans perdre de temps avec la déclaration de François Legault hier.
Oui.
Mentionnant qu'il voulait voir une mobilisation nationale. pour freiner le déclin de la langue française en disant qu'on court vers le mur. Et il vise une immigration 100% francophone d'ici 2026. Évidemment, ça, c'est en assumant que Justin Trudeau va lui donner les pleins pouvoirs en immigration, ce qui s'est fait dire non à 95 000 reprises. Mais qui est en train de compter? Qui est en train de compter?
Personne.
Personne, voyons. François Legault qui s'est prononcé là-dessus. Je vais vous dire que le premier segment de cette émission va être un peu thématique immigration. Là.
Oui.
On va parler aussi de scolarisation au Canada dans ce sens-là. Le premier ministre qui a donc ciblé l'enjeu de la langue française comme un de ses principaux enjeux, comme la lutte au changement climatique. Surprenant qu'il n'a pas mis dans la même lignée l'économie. Là. Il en parle tellement. Là, ça n'a pas été le cas. J'imagine que dans son discours au trône aujourd'hui, ça va quand même être sa priorité de parler d'économie, mais j'ai été quand même agréablement surpris de voir autre chose qu'économie dans ses priorités, dont lutte au changement climatique. As-tu...
Tout va bien, j'entends, je voyais des tremblements, je t'inquiète.
Comme une espèce de petit soubresaut.
Vibration, tout est
beau. Tout est correct. Alors, ce qu'il dit, c'est que vraiment pour lui, le déclin du français, ça part de l'immigration. Une immigration contrôlée, évidemment, par le Québec. Et un des indices qu'il prend... Oui, vas-y.
Non, c'est que je suis étonnée, on dirait, de lire ça, parce que oui, on est 70 à 80 % des... On est 78 à 80 % de francophones, mais oui, il y a une baisse, mais d'un autre côté, l'immigration va continuer de se poursuivre. On discutait un petit peu avant l'émission de quelle façon ça a un impact dans le monde du travail, mais aussi dans le monde personnel des gens qui arrivent. Je vais te laisser continuer. J'aimerais qu'on en discute par la
fin. Oui, mais un des exemples qu'il prend, il dit « Ah oui, je sais qu'au Québec, là, on est à 78-80 %, il y a une petite baisse du taux francophone de 3-4 %.
Ouais. »
Mais il dit « Montréal, c'est le gros problème. » Énorme problème, qu'il dit, parce qu'on a atteint en dessous de la barre des 50 % de francophones. C'est un peu trompeur, précisons. Francophone comme langue maternelle.
Parce qu'il y a beaucoup d'anglophones qui savent parler français également à Montréal, dans la métropole.
De la même manière qu'on est des francophones qui savent parler anglais.
Exactement.
Et des immigrants qui ont appris le français, mais qui ont comme langue première l'arabe, le mandarin, l'italien. Nommez-les, là, vous comprenez, vous connaissez des langues, là, j'ai pas besoin de vous les apprendre. Le japonais.
Le néerlandais.
Le néerlandais. Mon Dieu Seigneur. Donc, tout ça pour dire, évidemment, que la réalité, c'est que c'est à peu près 84% des Montréalais qui sont capables de tenir une conversation en français selon Statistique Canada. Pas trop s'éloigner non plus là, de la réalité. L'inquiétude que j'ai, c'est... Puis ça reste une des priorités. On a aussi mentionné qu'une des choses qu'on surveille beaucoup... C'est dans les indicateurs, là, parce qu'on a dit du côté de Jean-François Roberge, tous les indicateurs sont en rouge. La langue maternelle, la langue parlée à la maison et la langue parlée au travail. Il y a un de ces enjeux-là qui me semble beaucoup plus important que les autres.
La langue au travail.
Effectivement, parce que je pense par exemple là, à des histoires, j'essaie de me rappeler honnêtement les détails, mais c'est quand il y a eu le restaurant coréen.
Oui.
Il y a un autre restaurateur. Qui est sorti en parlant d'une situation similaire qu'il avait vécue quand il était venu à Québec, parlait pas français. Puis maintenant, parler français, ses enfants étudient en français. T'sais, la génération suivante. Là.
Qu'il faut leur laisser le temps de s'acclimater, tout simplement.
Exactement. Donc, moi, la langue maternelle m'importe très peu. Puis la langue, surtout, parler à la maison, je veux dire, ça s'acquiert
que
au fil
parles,
des ans.
Que tu parles l'anglais à la maison, mais que tu parles français dans un contexte de travail où est-ce que c'est nécessaire, c'est bien à la personne de prendre cette décision-là, je pense.
Parce qu'il y a des choses, définitivement, là, qui ne sont pas acceptables. De voir des compagnies fédérales qui sont supposées respecter la loi sur les langues officielles et avoir une connaissance du français aux plus hautes instances, comme on l'a vu avec Air Canada et Michael Rousseau.
Oui.
On le voit présentement là, avec le reportage sur les médecins qui ne parlent pas français, le personnel hospitalier qui ne parle pas français. Je mets quand même l'astérix que les hôpitaux mentionnés sont plus souvent qu'autrement dans West Island, à Montréal ou dans le coin de Gatineau près d'Ottawa, ça excuse pas, par exemple. T'es quand même supposé avoir du personnel hospitalier qui parle français. je mets quand même l'Astérix.
C'est comme, je vais faire un parallèle à quand tu t'en vas dans les autres provinces canadiennes qui sont anglophones, puis je sais pas, tu as une hésitation sur des mots en anglais, puis ils vont dire que, bon, c'est la province qui parle le français puis qui est pas 100% bilingue, alors qu'ici, dans notre propre province, c'est pas tout le monde qui sait bien parler le français dans des contextes de travail. Donc oui, je comprends ce point-là. À la maison, par contre, faites bien ce que vous voulez, à mon avis.
Oui. Statistiquement, c'est ça, c'est généralement, le monde au Québec savent parler français. L'enjeu, on le voit là, dans la commission Rouleau.
Oui.
Du côté d'Ottawa, des fonctionnaires francophones qui se font dire par le juge, vous pouvez témoigner en français, le font en anglais parce que c'est leur coutume de travail. C'est ça qui est dérangeant pas mal plus. Puis oui, c'est visé un peu, mais de penser que c'est l'immigration le problème principal, j'ai l'impression qu'on est un peu loin de la réalité. Là. J'ai de la difficulté à croire. Puis cette logique de pensée, on la retrouve souvent chez ceux qui n'aiment pas l'immigration, qu'une famille, par exemple, arabe, mm-hmm. qui ne parle qu'arabe, réfugiée de guerre, qui immigre au Québec, est satisfaite d'être capable d'être comprise par absolument personne.
Non, c'est sûr que la personne ne se sent pas mieux de son côté. Là.
J'ai pas l'impression que ça arrive des gens qui veulent absolument pas apprendre aucune trace de français, ne veulent pas que leurs enfants apprennent le français.
Surtout si tu prends la décision d'immigrer dans un endroit qui est principalement francophone, par exemple. Mais on pense aux gens qui arrivent, juste comme on a précisé plus tôt, de leur laisser peut-être le temps d'apprendre la langue, la maîtriser, de prendre des cours, de se faire accompagner.
Puis de penser plus loin que la génération première.
Oui.
Ça se peut là, que les parents d'enfants qui immigrent apprennent à peine, peut-être jamais le français. Ça se peut très bien, là, honnêtement. Puis je dis pas que j'encourage ça. Idéalement, j'aimerais que tout le monde qui migre essaye d'apprendre un peu le français. Puis c'est majoritairement ce qui arrive. Là. Mais c'est la génération d'après qui va aller à l'école primaire de façon obligatoire
tout à fait.
En français, à l'école secondaire de façon obligatoire en
tout
français. C'est un peu ça, là, mais je pense que le véritable enjeu du recul, c'est effectivement la langue au travail. Puis j'aimerais ça qu'on se concentre plus là-dessus que sur l'immigration. Évidemment, je pense même plus que c'est rendu une prise d'opinion là, avec toutes les déclarations qui se sont faites durant la campagne électorale.
Ouais.
C'est toujours un peu là où on revient du côté de la CAQ. Là. C'est toujours négatif, l'immigration, puis c'est toujours problématique. J'espère qu'on va s'élever au-dessus de ça dans le débat. Et une des bonnes raisons pourquoi il faudrait s'élever autour de ça, c'est une autre nouvelle qui est sortie ce matin à propos du taux de scolarisation du Canada.
Qui est bien intéressant, soit dit en passant.
Très intéressant. On est le pays le plus scolarisé du
G7. Le G7, les grandes forces mondiales,
les
ça se rappelle.
Les plus grandes forces mondiales, c'est objectif, là, mais vous comprenez. Là,
oui.
Le G7 est le mieux représenté par le Canada, donc dans les taux de scolarisation élevés. Donc on parle de baccalauréat, on parle de maîtrise, on parle de doctorat. Des étudiants de haut niveau. On est très, très, très intéressant. Le problème? Bien, problème, comprenez-moi bien. L'importance de l'immigration, c'est plus ça que je veux dire là, quand on dit que c'est plus positif qu'autrement. Selon le recensement de 2021, les immigrants et les résidents non permanents au Canada représentent plus de la moitié de la population qui est en âge de travailler, qui a un doctorat, ça c'est 55%, une maîtrise, 52%, ou un diplôme en médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire, optométrie, essentiellement là, ce qu'on manque plus qu'autrement, 50%.
C'est énorme.
C'est 40% des gens qui ont un baccalauréat aussi. Là. Ça veut dire qu'au Canada, on est majorité à avoir, oui, les baccalauréats, mais ceux qui se rendent au niveau supérieur, c'est majoritairement pas une bonne partie, pas une proportion intéressante, majoritairement.
Oui, parce
les immigrants et les résidents non permanents.
Un Canadien sur trois est titulaire d'un bac, mais au-delà de ça, ce sont ces immigrants qui font que notre scolarité est de loin plus poussée.
Exactement.
On note que les immigrants représentaient une personne sur quatre au Canada, et ce qui fait la statistique encore plus intéressante, là, selon Statistique Canada, toujours.
Et les études supérieures sont représentées à plus d'une personne sur deux
voilà.
Par ce qui devrait être une personne sur quatre.
Voilà.
Donc, c'est de la surreprésentation. C'est un très bon indice que peut-être qu'il y a un problème au niveau... il y a un problème. Il y a besoin de gens dans tous les domaines. Les techniques, c'est aussi important. Il y a les métiers de service au détail. Mais clairement, notre spécialisation dans des domaines nécessitant beaucoup d'études, en ce moment, ça nécessite d'avoir ces immigrants plus qu'on pourrait le penser. Un autre problème aussi, là, c'est la surqualification des immigrants qu'on ne reconnaît pas rapidement. Les immigrants, selon Statistique Canada, surtout dans le domaine de la santé, si on connaissait leurs acquis rapidement, oui. C'est un sujet qui revient régulièrement, on pourrait avoir à peu près 27 350 infirmières autorisées ou travailleurs de profession, qui sont proches d'être infirmiers, infirmières.
Oui.
Et 15 700 médecins supplémentaires.
On parle de la crise des médecins de famille, du fait qu'il n'y en a pas assez, du fait que ça nous prend plus de personnel, éviter les heures supplémentaires.
Fait que plutôt que d'être bien négatif envers l'immigration puis de trouver tous les pépins puis tous les défauts,
tout
on pourrait les accueillir,
les
aider à se franciser, leur donner le temps de se franciser, puis surtout les aider à s'intégrer sur le marché du travail en français pour essayer de régler nos problèmes.
Tout à fait. Félix, combien de fois es-tu embarqué dans un Uber? Que c'est un chauffeur qui est immigrant. Tu lui poses la question, « Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Faites-vous autre chose? » Puis il me dit, « Oui, je suis médecin. » Puis il va commencer à parler de son pays natal, de sa profession. Puis il est en reconnaissance d'acquis pendant ce temps-là ici à refaire sa scolarité.
Le fait que c'est arrivé à absolument tout le monde qui a pris quelques Uber dans sa vie, puis qui est pas bête, puis qui parle à son chauffeur.
Oui. Ça, c'est la partie à préciser.
C'est un bon indice que... Oui. Puis je suis le genre de personne qui, une fois sur deux, est bête et n'a pas le goût de parler. Là.
Oui.
Puis malgré tout, ça m'est arrivé à plusieurs reprises.
Ben voilà, fait qu'on le constate.
C'est un bon indice.
Ces gens-là ne sont pas oubliés, ils sont juste en adaptation.
Comme quoi, il faut regarder ça plus positivement qu'autrement, l'immigration. Midi 15, on va prendre une première pause sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez Les Affamés.
Love me. Vous écoutez Les Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Midi 19, bien pile. Vous êtes toujours en compagnie de Félix-Antoine Audet et Rosalie Chabot pour votre dose d'actualité pour bien vous remplir l'estomac. Ouais, c'était mauvais.
L'estomac.
L'estomac, ouais, tu peux.
La tête, peut-être.
Ben, c'est affamé, jeux de mots. C'est pour ça qu'on va avoir à l'hiver une nouvelle image sonore avec tous ces jeux de mots-là dans l'image sonore.
Ouais.
Comme ça, on aura pu essayer de faire ces mauvais jeux de mots-là en lien avec les affamés. Dans le show.
Ouais, je pense que c'est une bonne idée.
Il y aura plus de valeur de production, ça va être pas mal plus intéressant.
Je trouve que c'est une bonne décision,
c'est
Félix.
C'est une très bonne décision. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive des idées comme ça par moment. Parlant de bouffe, vous allez me suivre. On va y arriver à la bouffe, là.
OK.
Un article qui est sorti aujourd'hui parlant du taux d'occupation des tours de bureau à Québec. Comparativement à Montréal. Oui, je sais qu'on est loin de la bouffe. Laissez-moi 5 secondes, on y arrive.
Je te suis.
À Montréal, c'est un problème en ce moment. Taux d'occupation qui est anémique. On a environ là, 16%, 17% même de locaux inoccupés, inutilisés. Du côté de Québec, on est à peu près au même niveau qu'au début de la pandémie, avec un 8% non utilisé. Ça se passe très bien. C'est notamment à cause du gouvernement. Parce qu'évidemment, vous aurez compris que nous, c'est une ville de fonctionnaires, beaucoup plus qu'à Montréal où c'est des bureaux plus privés, des compagnies privées. Et le télétravail, ben, est devenu en mode hybride. Obligation de travailler généralement 2 à 3 jours semaine dans le bureau. Et il y a quelque chose d'intéressant qui en découle. On arrive à la bouffe, là. Ouais, si
je te suis.
C'est des restaurateurs dans les secteurs où il y a les employés de bureau qui disent que le rythme et les journées occupées ont complètement changé. Vous dites, mettons, là, que demain matin, je vous mets en charge d'un restaurant dans le centre-ville de Québec, vous devez faire les horaires. Moi, mon premier réflexe.
Vendredi, samedi,
full staff.
Ouais.
Lundi, mardi, mercredi, garde ça tranquille.
Tout à fait.
C'est plus du tout la situation actuelle.
Laquelle? Quelle est cette nouvelle situation, Félix?
C'est ce que les restaurateurs disent dans l'article aux journalistes qui les interviewent. C'est que le lundi et le vendredi étaient des journées occupées. Ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais plus souvent qu'autrement, les lundis sont des journées occupées dans les magasins, dans les restaurants. Quand je travaillais au commerce au détail dans un centre commercial, le lundi était toujours une des journées les plus occupées. Une fausse conception qu'on a. Pas important. Les lundis et vendredis ne sont plus les journées les plus occupées. C'est rendu le mardi, mercredi, jeudi.
Mais pourquoi, vous demandez-vous?
Mais que quoi? Que quoi? Parce que les travailleurs hybrides, qui travaillent 2-3 jours semaine au bureau, ben, prennent leur lundi, leur vendredi pour faire une espèce de long week-end où ils restent à la maison, même s'ils travaillent, et ils travaillent en milieu de semaine. Ce qui fait que les petites sorties d'après-bureau ou les lunchs en plein milieu de la journée dans un resto, les meetings dans un resto, ça se fait généralement les mardis, mercredis, jeudis.
On pense à Québec, là, il y a plein de tours gouvernementales à bureaux qui sont à proximité de la rue Saint-Jean, qui sont à proximité de Grande Allée ou sur ces rues-là même. Donc,
Saint-Joseph,
où est-ce que c'est extrêmement achalandé. Et même à Sainte-Foy, en plein cœur de Sainte-Foy, le boulevard Laurier est rempli de gens qui sont dans des bureaux également de fonctionnaires et qui vont dîner. Là, les restaurants sur Laurier sont extrêmement occupés.
Ben, tu me comptais justement à la bête.
Oui.
Tu te faisais dire exactement la même chose.
Ben c'est ça, je suis allée à la bête dans le cadre d'un souper familial et on était vendredi soir et la serveuse me disait, on n'a même pas de deuxième service ce soir, c'est plus notre soirée la plus occupée. Vendredi soir, à la bête, tu bois du vin, tu manges de la viande rouge.
On vient de finir au bureau, gang, on s'en va tout, on vient de finir la semaine, ouh, c'est vendredi, on s'en va manger.
Puis c'est fascinant aussi parce que il y a un gym dans le même édifice que la bête auquel je vais d'ailleurs qui me disait que c'est un gym 24 heures. Puis il disait que maintenant les gens viennent s'entraîner.
Oui, je m'entraînais là avant.
Tu t'entraînes au Maxiforme 24 heures.
Dans le temps où je m'entraînais là, tu vois par la bédaine que c'est plus le cas là.
On se disait que la plupart des gens vont dorénavant s'entraîner beaucoup plus dans le milieu de la semaine plutôt que le vendredi soir puis peut-être pas qu'il était si achalandé que ça, là, mais les gens attendaient plus le week-end.
Ouais.
Les habitudes ont tout simplement changé. Est-ce à cause de la pandémie?
Ben, c'est un peu ça. Et je veux dire, on en parle beaucoup de la pandémie, mais c'est un peu le retour que je me faisais. C'est de réaliser à quel point il y a des choses auxquelles on ne pense pas.
ouais.
qui ont changé. Évidemment, là, que tu te dis, bah oui, on se lave plus les mains parce qu'il y a du, encore du détergent un peu partout. On revient souvent là-dessus. On fait plus attention. Je mets mon masque si je suis malade. Tu sais, c'est les choses qui reviennent tout le temps. Mais ces espèces d'effets complètement ignorés auxquels on ne pense pas nécessairement, comme les restaurants sont rendus plus occupés des mardis et des mercredis qu'un vendredi soir. Des fois, c'est hallucinant. Tu sais, quand tu repenses des fois à ta vie, mm-hmm. tu te dis, hey, telle affaire, c'est une décision qui semblait niaiseuse, puis 5 ans plus tard, mais je serais pas où je suis maintenant. Moi, j'adore ces petits moments-là de réalisation de choses qui ont changé. Puis c'est pas nécessairement négatif. Les restos sont simplement plus occupés d'autres journées que ce qu'on est habitué.
Non, mais c'est juste intéressant, ça change le mode de fonctionnement.
Vraiment.
Qui était auparavant les vendredis, samedis.
Alors, c'est ce qu'on avait à dire là-dessus. Je veux poursuivre sur de quoi qui me chicote toujours quand on en parle. Je veux parler de cyberdépendance.
Oui.
Pourquoi ça me chicote, vous me direz? Tu sais, le jeune enfant des années 90 qui était un petit peu nerd, écrasé dans son sous-sol avec oui. une Game Boy ou un ordinateur ou une Nintendo, comme diraient les parents, c'était moi. Je plaide coupable, je lève haut la main, ça a été moi.
Toi, tu jouais à Mario Bros, la première édition.
Oui, mais surtout Pokémon. J'ai grandi avec Pokémon, ah ouais? j'ai un tatou d'une Pokéball. Mes meilleurs chums, qui on est le groupe le plus ésotérique que tu peux pas imaginer. Là. On peut pas être plus différent l'un de l'autre. Mais quand on avait 4 ans, on était 4 qui typaient ce Pokémon, puis on était encore chums à ce jour. Moi, ça a toujours joué une partie importante dans ma vie. J'ai appris l'anglais à cause des jeux vidéo. J'ai appris beaucoup de techniques de réflexion critique à cause des jeux vidéo. Et j'ai toujours été gossé par cette espèce de fausse diagnostication de la cyberdépendance. Un peu de la même manière que la fausse diagnostication des TDA, là.
Oui.
En étant un vrai TDA diagnostiqué, c'est frustrant de voir les gens qui sont juste...
Qui oublient de quoi sur leur to-do list, puis qui disent « Ah, je suis dans ma TDA ».
Oui, c'est frustrant. Ouais. Et c'est une étude, ben c'est pas une étude en fait, c'est une nouvelle qui annonce un programme de lutte contre la cyberdépendance dans toutes les régions du Québec. C'est un programme qui va être mis en place au printemps, qui aide les personnes qui ont des problèmes de dépendance aux jeux ou à Internet à travers le Québec.
Oui.
C'est une très bonne nouvelle, comprenez-moi bien, parce que la cyberdépendance, elle existe et c'est grave. De la même manière que la dépendance aux jeux d'hasard, à l'alcool, à la drogue quelconque. La dépendance est un problème, c'est souvent même génétique. Faut aider ces gens-là. Mais le petit chiffre qui me fait intervenir aujourd'hui, c'est à la toute fin de l'article, où on dit 3%, je répète, 3% des jeunes souffrent de cyberdépendance au Québec, ce qui est similaire à toutes les autres statistiques de dépendance. Donc, dépendance à l'alcool, dépendance aux jeux de hasard, dépendance à la drogue. C'est pas plus élevé, la cyberdépendance.
Mais comme tu me disais avant le début de l'émission, Félix, c'est pas parce que ton enfant est simplement plus introverti qu'il choisit de faire des activités seules sans nécessairement aller jouer un gros sport dehors ou peu importe. Ça ne veut pas dire qu'il est cyberdépendant pour autant.
Cyberdépendant, là, disons les choses crues, disons les choses comme elles sont. C'est la personne qui a une couche puis qui se laisse aller dedans pour pouvoir continuer de gamer.
Qui oublie de manger des heures de temps.
C'est la personne qui se nourrit pas. C'est la personne qui ne dort pas. Puis quand je dis « dort pas », je dis pas « il s'est couché à 11h30 à place de 10h parce qu'il a gagné plus longtemps ». Non, non, la personne qui se réveille à 5h30 du matin tous les matins puis qui prend une petite sieste d'une demi-heure en après-midi pour réussir à continuer à gamer juste pour survivre. Ça, c'est de la cyberdépendance. De la même manière que on va rire un peu des fois de la matante qui aime bien prendre une bouteille de vin en disant qu'elle est alcoolique. Elle est pas alcoolique. C'est pas ça, être alcoolique. Comprenez-nous bien. C'est un peu ça, ma frustration. Je me suis fait dire ça toute ma vie. J'étais, tu sais, nous, on est un peu la génération.
Oui.
Quand tout commençait, l'Internet commençait, nos parents avaient pas vécu ça d'aucune manière. Puis je les comprends. C'est tellement différent. Mais ça va revenir à quelque chose que j'ai souvent mentionné. Arrêtez de penser que la société a donc changé.
Je pense juste qu'elle a évolué.
Oui, mais... En fait, oui, excusez-moi, je vais préciser. Pas la société n'a pas changé. L'être humain n'a pas changé. La génération après vous est pas tant différente. La génération après vous... L'être humain, là, n'est pas devenu une bébite complètement différente d'une année à l'autre.
Le mot « sapien » en nous demeure.
Et il reste là. C'est l'outil qui a changé. Le jeune, là, qui game de façon constante dans son sous-sol... Il existait il y a 40 ans. C'est juste qu'il jouait à Donjons et Dragons avec ses chums.
Je vais te faire un parallèle. Moi, les étés, là, je voulais pas aller au camp, puis je pouvais lire approximativement 8 romans par semaine sans m'arrêter. On parle que j'arrivais au resto, j'avais tout le temps mon roman. Puis au secondaire, je me faisais intimider à la cafétéria parce que je traînais mon Hunger Games à table, mettons.
Ben moi, ça a été un autre de mes enjeux là. T'sais, la lecture et les jeux vidéo ont essentiellement été mes grands amis de mon enfance. Mes professeurs ne m'avertissaient pas parce que je dérangeais. Ils m'avertissaient parce que pendant le cours, j'avais un livre en dessous du bureau, puis je lisais.
C'est jusqu'à aujourd'hui, les jeunes ont un sel.
Ben oui. Puis les photos là, dans un autobus de ville avec tout le monde sur son sel, les yeux baissés. Mais savez-vous quoi? Il y a 60 ans, les photos dans un autobus de ville, c'est tout le monde dans son journal, les yeux baissés, puis qui se parle pas. Mmh. L'être humain n'a pas changé, c'est les outils qui ont changé. Oui, la société va plus vite parce que tout est accessible d'un clic. Ça, c'est la société, c'est une chose. Mais fondamentalement, l'être humain n'a pas changé.
Donc, le programme qui va être mis en place, qui est un projet pilote là, nommé Virtua, est-ce que tu considères que c'est tout de même une bonne initiative,
Félix? Ben oui, comprenez-moi bien, c'est une excellente nouvelle parce qu'il y en a de la cyberdépendance. Il y a de la dépendance qu'il faut régler, il faut aider ces gens-là.
Tout à fait.
Je ne sais pas te dire. Puis, elle est probablement plus dure à contrer que d'autres dépendances parce que tu ne peux pas vraiment t'en couper. C'est presque impossible de t'en couper.
C'est ça qui est difficile, surtout que les outils, comme tu disais, sont présents plus que jamais.
Tu sais, tu peux facilement ne pas aller dans un bar, tes amis sont au courant, n'amènent pas d'alcool chez vous ou n'en sortent pas quand tu vas chez eux. Je dis pas facile parce que c'est pas évident, comprenez-moi bien. Oh, là, oui. Il y en a partout de l'alcool aussi, là. Mais d'une certaine manière, tu peux te mettre dans une situation.
Ouais.
Une situation où il n'y a plus d'écran nulle part, il faut que tu changes drastiquement ta vie. Il faut que tu choisisses ton emploi en fonction
faut
de ça.
Faut pas que tu vives à New York parce que là,
Tiens-toi loin de Times Square, mon Dieu, je vais le sortir de ma bouche. non, c'est ça. Donc, petite crotte que j'avais sur le cœur. On va prendre une pause publicitaire et musicale sur les ondes de Chiz 94.3. Au retour, l'homme blanc médiocre se pointe le bout du nez.
Avide de découvertes? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, les Architectes du son.
Yeah. C'est les streetlights. I ain't slapping like 48. I'm back. I'm here now, know they been waiting for me. Since I was 15, now I'm yellow. 100 miles and running. Easy coming, easy go, that's why I work the midnight. I'm out of town, shirty, very dirty on the turnpike. My piss clean, I caught a case of heavens to the best. The lawyer said don't smoke, I'm like good love, boo, to keep me blessed. I'm buying Nike stock when I see these checks. Motivated my niggas because they're bigger than me. I know that, I might go back to my old shit. Bring the throwback, that's a throwback, yeah. Watch your mouth! Try to talk like you know something. My competition is myself, therefore I ain't worried about no one. Not a soul, pot of gold, looking like a stain. Niggas will wet your mind, leave you behind yourself. You playing catch up, boy, that's your blood. Cause I done blew inside my mind since I first wrote a rhyme. You're all late, rappers be stuck in the booth, I'm all state. They imposter, steak and lobster, serve my turf. Better wear a chopper next to Oprah at the opera, okay.
If you had everything you ever wanted right in front of me, what's it gonna be? Lights or the drugs or the girls? Find it drives me crazy. Drives me crazy. Drives me crazy. Drives me crazy. Drives me crazy.
Gotta love it though they hating on me. I be on Sunset, still go back to 68 to Stony. Cooked out my basement, drop my tape and get my homies placements. I play the keys in my sleep on the beach, that's a dream vacation. Say you ain't hurt, I'll let you lie, just know you dig your grave. No turning back when you don't find it, that's the hand you play. Game over on the driving range and the Range Rover halfway sober with my middle finger up. Fuck these hoes, I'm a tiger in the jungle. Middle of the summer with the wood on me and the feet for the snow. White girl, she a feet for the blood, I'm a G to the cold. You know me and these kinky palm off TLC for that T.O.P. Keys to the Jeep and the D to the boat. Y'all crazy, y'all losing, I make pop music, still a king with the flow. It's just shit I've been thinking about,
crazy. Drive me crazy. Drive me crazy.
Affamé sur les ondes de Chiz 94.3.
Midi 36 minutes. Félix-Antoine Audet, toujours avec vous en compagnie de Rosalie Chabot pour un petit peu moins qu'une demi-heure encore. Et ça, c'est une histoire qui nous touche de très très près. Ça se passe à l'Université Laval et ça fait grandement, grandement réagir sur les réseaux sociaux. Ça a commencé avec l'historien et militant Frédéric Bastien. Vous vous rappelez peut-être de lui comme l'un des candidats à la chefferie du Parti québécois qui a élu finalement Paul Saint-Pierre Plamondon. Sinon, ben, je vous dis, c'est un historien, c'est un militant. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir généralement.
Parfait.
Il a dénoncé l'appel de candidature de l'Université Laval pour le poste de titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire parce qu'elle excluait directement, là, c'était inscrit dans l'offre d'emploi, tout homme blanc. Automatiquement, tu étais enlevé de la possibilité d'être considéré pour l'emploi. Et là, ça fait réagir, vous aurez compris, des deux bords, notamment parce qu'on a eu, du côté d'une professeure de l'Université Laval au département de sciences politiques, Sue Tomkinson, une réaction sur les réseaux sociaux disant « Imaginez être un homme blanc médiocre » qui croit qu'une chaire de recherche du Canada lui est due alors qu'il n'a même pas publié un ouvrage qualifié par ses... j'ai le mot en anglais, le « reviewed », mais...
Révisé
par ses pairs. Merci beaucoup. Je cherchais l'expression. Je parle français, M. Legault. Faites-vous en pas, là. C'est une simple
loi 101.
Je cherchais juste l'expression. Donc, ça a fait polémique de ce côté-là. L'Université Laval qui a rencontré la professeure justement là-dessus, elle ne recule pas et c'est son droit. Liberté d'expression. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Je pense qu'il y a une certaine liberté. Est-ce que je trouve que c'est un peu cru pour rien? Probablement. Ça ne fait pas avancer la discussion, mais bien libre à elle. Liberté d'expression, je crois ça. Là, les deux camps s'oppose. Encore une fois, pour moi, ça, c'est purement de l'opinion. Okay? Mais on va pas toucher aux vrais coupables. Il y a le gouvernement du Québec et les gens qui sont en désaccord totalement avec ça, qui pointent du doigt les exigences du gouvernement fédéral, qui demandent un certain nombre de personnes issues des minorités visibles pour équilibrer un peu les choses dans les chaires de recherche du Canada. parce que c'est ça qui force l'Université Laval essentiellement, parce que c'est pas la première fois, là, c'est arrivé déjà une autre reprise, à exclure complètement les hommes blancs du processus. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent, bon, ils chialent pour rien, ils méritent pas d'être là de toute façon, il faut donner la place aux minorités. Et d'une certaine manière, personne n'a raison, personne n'a tort.
Mais ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'en tant... Et là, je pèse mes mots.
Oui.
En tant que femme blanche, bon, déjà, il y a moins d'intersectionnalité dans mon cas parce que je suis une femme, donc minorité. Bon. Mais c'est difficile dans ces cas-là de se prononcer en tant que personne blanche parce qu'on a toujours été... et là, encore une fois, je pèse mes mots, mais on a toujours été reconnus comme étant davantage de privilèges, davantage d'accessibilité, de facilité. Ce qui est différent dans ce cas-ci, c'est que ça semble être du racisme inversé.
Mais je comprends ce que tu veux dire.
Ce qui était écrit, en fait, dans l'article, c'était que selon le militant, donc au lieu de débattre des enjeux, Tomkinson a choisi une attaque personnelle sexiste et raciste.
Je comprends, mais tu sais, il y a une certaine discrimination. Je veux dire comme ça. Là, comprenez-moi bien. Puis c'est là où je veux en venir. Parce que j'ai aucun problème avec le fait qu'il y a des exigences de diversité à l'université. Et c'est là où je trouve qu'on s'attaque pas à la bonne personne quand on s'attaque au gouvernement canadien, ceux qui sont fâchés que cette offre d'emploi-là soit là. Pour moi, le véritable enjeu, c'est que on est engagé si peu de chaires de recherche dans les chaires de recherche du Canada à l'Université Laval ou autre université qui a besoin de faire cette démarche-là de candidats issus de la diversité, qu'on est obligé d'exclure complètement les hommes blancs du processus pour arriver à remplir un quota.
C'est dommage parce que on en a de la belle diversité. Puis on l'a pointé plus tôt, d'ailleurs, les immigrants qui viennent ici sont extrêmement scolarisés et pourraient prendre des postes comme ceux-ci.
Ils devraient. On ne devrait pas avoir besoin de se rendre au point où on est un peu... Je vais un peu dans un détour, vous me permettrez. Là. Le CRTC, qui régit la radio...
Oui, CRTQ?
Non, CRTQ, okay. Ça, c'est une école de radio.
OK, excuse-moi, je me suis mêlée.
CRTC, c'est l'organisme qui régit notamment les médias et la radio, oui. Au Québec, au Canada. Donne un pourcentage de chansons francophones qui doivent être jouées en heure de grande écoute. Sauf que, là, je vous parle d'expérience, là, les radios privées, c'est à la chanson exactement prêt. Tu peux pas supprimer une seule chanson francophone d'un log musical parce que sinon tu passes à la virgule juste en dessous puis t'es plus au niveau francophone minimal acceptable. Regardez, ça c'est entreprise privée, ils gèrent ça comme ils veulent. Je suis pas en accord, j'aime ce qu'on fait ici chez Shiz où on a un taux de français plus qui excède de loin le minimum requis, mais c'est leurs affaires. Quand il s'agit de quelque chose comme les universités, de traiter la diversité de cette façon-là, on va aller chercher juste la virgule là, qu'il nous faut pour qu'on soit pile-poil dans le minimum requis puis rien de plus. C'est ça qu'il faut avoir fait pour se rendre au point de devoir demander une offre d'emploi avec exclusion complète des hommes blancs. C'est qu'il faut s'être rendu à ce stade-là.
Ah, il faut avoir poussé poussé sa loque très loin.
Puis la seule astérix que je vais mettre, parce que ça se peut que je sois complètement dans le champ, je vais quand même mettre cet astérix-là. Peut-être que les taux d'exigence du fédéral sont beaucoup trop élevés. C'est difficilement atteignable. J'ai de la misère à croire ça, là. Mais mettons là, que les immigrants au Canada, c'est 23%, puis on demande 65% de personnes issues de minorités. Puis considérant surtout que les femmes sont là-dedans, donc même femmes blanches, ça fait que même là, ce serait-tu si catastrophique que ça, 50% de femmes, puis après ça, il y a le 13-15%, ça serait peut-être même pas assez. En tout cas, vous me comprenez, là. Mais de dire peut-être que c'est le fédéral, je doute fortement. Je vais quand même mettre l'astérix au cas où. Mais c'est pas normal qu'on se rende au point. Puis c'est pas à cause des demandes du fédéral. Puis c'est vrai que Frédéric Bastien a le droit de faire là. C'est parce que... Moi, je pense pas que tu règles la discrimination historique avec la discrimination nouvelle. C'est pas comme ça que tu vas régler le problème, mais c'est vrai que ça prend cette diversité-là. Puis c'est pas normal qu'une université, avec le prestige de l'Université Laval, se rende au point
Surtout au poste.
Faut compter la virgule. Là.
Surtout à ces postes-là. Je veux dire, exactement. Ce sont des postes de haut niveau au sein de l'Université Laval.
Parce que c'est assez facile, j'ai l'impression, de toucher au quota nécessaire sans avoir à sourcer. Je pense pas que ça devrait être nécessaire puis si on a bien géré ça puis on a bien fait ça. On va prendre une dernière pause musicale sur les ondes de Chiz 94.3. Au retour, on parle de baguettes et de pain.
Je voudrais te parler de mes sentiments que j'éprouve en secret dans ce tour de moi pour décupler le massacre que tu fais. Mais je sais que tu sais que c'est comme ça. Condoléances à tous ceux qui sont comme moi. Je voudrais te parler de mes sentiments que j'éprouve en secret.
Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Midi 47 minutes, quelques minutes encore seulement qui nous séparent de plusieurs excellentes chansons de la relève sur les ondes de Chiz 94.3. Mais on va rester et profiter de ces dernières minutes d'information. Félix-Antoine Audet, Rosalie Chabot qui vous accompagne encore jusqu'à 13h. Rosalie, la nouvelle qui a choqué le Québec, qui a renversé le statu quo. Jay Dutemple ne sera plus l'animateur d'Occupation Double, mais il y a quand même des choses un petit peu plus intéressantes que juste la surface à regarder quand on parle de ça.
Tout à fait, parce qu'on se rappelle qu'Occupation Double, oui, c'est une émission de télé-réalité qui ne demande pas nécessairement de suivre l'émission avec une attention particulière.
Disons-le, l'émission de douche et douchette qui s'obstine.
Mettons. Mais au-delà de l'animation d'une émission comme ça, je tiens à préciser qu'après 6 années déjà à l'animation, il a révolutionné, on parle de Jay Dutemps, il a révolutionné la façon d'animer et également la façon dont l'émission est perçue juste en raison de son comportement.
Parce que c'est ça qu'on oublie un peu. Moi, j'ai jamais été un grand fan d'Occupation Double. Du côté de ma famille, ça a toujours été quelque chose de bien aimé. Je me rappelle la première fois que je voyais ma mère écouter Occupation Double, là, c'est les années de Joël Legendre.
Oui, oui, oui.
C'était très sérieux, là.
Ah, c'était
très rigide.
C'était le sérieux même.
C'était l'amour et le
feu, la passion.
Exactement, c'était rien d'autre, là. Puis les chicanes un peu, mais je veux dire, c'était complètement différent. Puis là, t'arrives avec Jay Dutemps qui éclate ça complètement. Ça devient une émission un petit peu plus intéressante pour les jeunes.
Ça a vraiment changé, je trouve, le public cible également.
Oui, c'est ça. Un style de narration qui est vraiment plus
humoristique.
Presque un souper presque parfait, d'une certaine manière. Là, ce genre d'humour-là qui rit un peu de ses participants, mais un peu...
avec douceur.
Exactement, le sympathique. Puis... Là, évidemment, il y a tout le phénomène que c'est rendu plus les influenceurs qu'autre chose qui y vont, contrairement à des personnes qui avaient leur métier et puis leur façon de voir les choses avant, qui était complètement différente. Donc, c'est vraiment une émission qui a changé du tout au tout avec Jay Dutemps.
Vraiment. Puis la façon dont il a fait ça, moi, je tiens à soulever le fait que il parle lorsqu'il a un enjeu, lorsqu'il y a un enjeu au sein de l'émission. Pour au-delà d'être un animateur qui se pointe devant la caméra puis qui dit le texte sur le télésouffleur, j'ai l'impression qu'il est davantage investi. Il en a parlé de lui-même dans des podcasts. Il avait parti également un podcast entre-temps dans ses années d'Occupation Double, Jay Dutemps discute, où est-ce qu'il était extrêmement pertinent. Et je pense qu'au-delà d'être un animateur qui, comme on le voit dans les journaux, se met du vernis et se fait... attire la polémique juste à cause de son habillement et sa façon de jouer avec l'ordre établi de l'homme. Mon Dieu Seigneur, j'ai mis mes lunettes à terre.
Elle est chamboulée, mesdames.
Je suis chamboulée. Je pense qu'il a vraiment marqué l'histoire d'Occupation Double et de l'animation au Québec.
Oui, mais c'est surtout, comme tu l'as dit, là, cette façon-là, puis il en a parlé dans un article avec la presse sur son retour, de pourquoi il a quitté, puis il a précisé, il a pas quitté à cause du dossier d'intimidation, parce que c'est vrai, on le saura probablement jamais. Ce qu'il dit, c'est qu'il avait déjà annoncé sa démission
avant la saison.
Donc c'était vraiment déjà décidé. Mais il a parlé du fait que c'est quelqu'un qui parle beaucoup dans ses podcasts là, de stéréotypes de genre, d'image corporelle. Bon, Occupation Double, c'est divertissant, mais certainement qu'on peut dire que ça joue un peu dans les stéréotypes de genre. Malgré, il faut leur donner les efforts qui ont été faits.
Oui.
Une personne trans qui est venue, on change un peu les images corporelles qui sont différentes.
Oui et non. Là. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on se rappelle que Jay est humoriste de profession, est allé à l'école de l'humour. Moi, j'ai vu ses premiers spectacles avec ma sœur alors qu'il n'était pas très connu encore. J'ai vu une belle évolution aussi. Et j'ai été à son spectacle qui est maintenant annoncé pour sa prochaine tournée 2023-2024, nommée Fin. C'est approprié. Je l'ai vu en rodage, puis c'était pas nécessairement... Hey, c'était tellement le fun, là, je fais une aparté, mais on était... c'était où donc? Ah, c'était dans le Vieux-Québec, une toute petite salle, on devait être 30. Là. On avait une super belle proximité, il a testé son show, c'était hilarant. Je me suis vraiment régalée, donc je vous le conseille, parce qu'au-delà d'être un homme qui attire la controverse par son habillement, je trouve vraiment que il est excellent dans son domaine. Il a pris une belle position en tant qu'animateur pendant 6 ans. Il a su...
Ouvrir la discussion.
Et notamment, là, tu sais, après une saison, il y a l'heure de vérité qui est tournée où est-ce que, bon, ça se chicane puis ça se dit ce qu'ils n'ont pas aimé. Il est bon pour pointer le problème, l'examiner, trouver la solution puis passer par-dessus après. Puis c'est une ouverture comme ça qui permet d'évoluer au sein des médias, je pense.
Je pense que c'est rare l'unanimité au Québec, là. Puis mal. Ben, en fait, là, non, c'est rare. Avec son habillement, oubliez ce que je viens de dire. Mais généralement, même les gens qui n'aimaient pas OD, je me mets dans cette catégorie-là, aimaient ce que Jay Dutemps faisait à OD.
C'est sûr.
Je pense pas que j'ai écouté un épisode complet d'OD depuis que Jay Dutemps est à l'animation. Mais vous allez m'entendre dire Captain Twist, puis Lady Pagaille.
Oui. Puis il a changé cette façon-là d'animer, puis on peut saluer ce travail bien accompli.
Il a amené quelque chose de nouveau, puis c'était quand même révolutionnaire, là, pour terminer là-dessus, d'avoir... C'était un humoriste de la relève. Là. Il n'était pas tant connu quand il a été nommé animateur de
Ils ont pris
double.
Une grosse chance.
C'est intéressant, c'est impressionnant de voir ce qui a été fait avec ça.
Tout à fait.
La dernière nouvelle, la dernière chose dont je veux parler, j'ai trouvé ça absolument hilarant, mais c'est intéressant. Connaissez-vous le patrimoine immatériel de l'humanité, de l'UNESCO? On connaît le patrimoine de l'UNESCO, notamment évidemment la ville de Québec qui en fait partie. Mais le patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est à propos des connaissances et du savoir-faire humain, que ce soit le développement de traditions, de danse, des événements culturels ou autres, et de la nourriture, par exemple. Des savoir-faire et des choses qui sont immatérielles, mais qui doivent être conservées et protégées. Et récemment, Paris, en fait la France, a fait inscrire l'art de la baguette. Donc, la baguette, essentiellement, est protégée par l'UNESCO, la baguette française, comme quoi c'est un savoir-faire. C'est pas essentiellement de la baguette, précisément, mais l'art de la boulangerie qui a amené à cet élément emblématique de la culture française et maintenant un élément du patrimoine immatériel de l'humanité.
Je comprends, parce que
ben oui.
Dieu que c'est divin.
Ah, que c'est excellent. Mais on s'éternisera pas là-dessus. Mais là, j'ai fait une petite recherche, je me dis, ah, je suis intéressé à savoir qu'est-ce que le Canada a dans cette catégorie-là. Méandre! Nous n'avons aucun item dans la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Mais quel dommage!
Mais quelle honte! Quel charivari d'incompréhension qui ne devrait pas être accepté. Alors, aujourd'hui, Rosalie et moi, on s'est dit, on est en train, là, on va faire une demande officielle
à
l'UNESCO.
Ah oui.
Avec
un rapport de 55 pages.
Parce qu'il y a mille et un éléments de patrimoine immatériel du Canada qui devraient être immortalisés. Et on peut même préciser presque Québec. Là.
Oui.
Mais je pense que c'est nécessaire. On va enlever tout de suite les évidences mains.
La poutine.
La poutine. Fromage quick squeak.
Attends. Ça, c'est pas Canada, c'est vraiment Québec.
Québec, oui, parce que c'est ça. On précise au Québec. Il y aura peut-être un peu Canada, là, mais Québec.
La poutine, la poutine. Okay.
Le fromage quick squeak là-dedans, là, il est dans poutine, là, ça compte aussi.
Mium. Ah, tu me donnes faim.
Jouer au hockey.
Oui.
Purement québécois. Et là, on se dit, OK, là, c'est bon, on a nos deux, trois premiers éléments faciles, mais c'est pas vrai. On est plus que de la poutine puis du hockey. On n'est pas un stéréotype de série américaine. On a autre chose. Qu'est-ce qui ferait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO pour représenter le Québec?
Et moi, c'est pas un objet, mais quand tu m'as écrit, la première chose qui me vient en tête, c'est le rigodon.
Ben
juste
oui.
Parce que le nouvel an s'en vient, puis là, il y a les chansons qui font aucun sens, que si une autre culture tente d'écouter et de comprendre, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens pour une autre culture, là.
Pour moi, je vais encore plus immatériel que ça.
Je t'écoute.
Chialer sur l'hiver... quand 95% de tes activités préférées sont reliées à l'hiver. Donc, tes trips, c'est le hockey, c'est la motoneige, c'est
le ski.
Mais tu chiales sur l'hiver de façon constante. Ça, c'est du patrimoine immatériel du Québec et pas à peu près. Là.
Moi, j'aime tourner à droite sur la rouge. qu'ici, on peut faire, qui n'est pas permis. Je vais dire que j'étais aux États-Unis et je conduisais à Boston. Oh. Puis là, l'ambitude est tellement ancrée, j'avais tourné à gauche. J'ai fait « Hey, c'est illégal! » Parce que juste ici que c'est permis.
C'est sérieux, moi, dans ma tête, c'est une pratique commune.
Non,
c'est vraiment
non.
Au Québec.
Hey, puis j'ai fait un saut.
Au Canada.
La personne qui est à côté de moi a fait « Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de faire ça. » Puis j'étais comme « Hey, c'est vrai, on n'est pas au Québec. »
Ah, j'avais même pas réalisé ce film, mais pour perdre mon idée, je te dis, je suis flabbergasté.
Non, mais ça en est une bonne, ça.
Oh, j'ai oublié dans la liste des évidences le sirop d'érable.
Ouais, c'est beau, on l'a entendu.
J'essaie de... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Le Saint-Hubert devrait être là-dedans.
Ah, le Saint-Hubert
devrait être dans la liste du patrimoine immatériel. Pour
OK,
moi,
pour vrai, j'ai tellement faim.
C'est aussi emblématique que la baguette parisienne, un bon Saint-Hubert.
Est-ce qu'on a des fromages d'ici qui sont... tu sais, on parle des campagnes de, mettons, les fromages d'ici qui sont exceptionnels, qui font du sans lactose maintenant pour les intolérants. Est-ce qu'on considère ça comme faisant partie de notre patrimoine?
As-tu besoin d'une campagne pour populariser la poutine?
Ouais, OK, c'est un bon point.
As-tu besoin d'une campagne pour populariser le Saint-Hubert? Ben, ils en font, là, mais comprends-tu? On aurait-tu besoin d'une campagne?
Non. OK, je comprends.
Et s'il y a une campagne pour les fromages d'ici, c'est probablement pas sur le patrimoine
immatériel.
C'est un bon point.
Chialer sur le troisième lien.
Oui, ben oui, ça aussi. Et je pense que je terminerai peut-être là-dessus. N'avoir aucune connaissance, mais triper sur le curling une fois aux quatre ans quand c'est aux Jeux olympiques. Ça, c'est profondément canadien.
C'est tellement vrai.
tout le monde aux Jeux Olympiques dit « Hey, le curling, là, c'est le fun à regarder, hein? » Hey, mais oui, puis tu ne toucheras pas pendant 4 ans.
Non,
mais,
tu regarderas jamais ça une seconde de plus.
Mais aux Jeux Olympiques, tout le monde est comme « Ah, tabarouette, je me suis surpris à avoir du fun. »
Le fait qu'on torche aux Olympiques d'hiver, mais vraiment pas aux Olympiques d'été.
Ah, ben vous pouvez compléter votre liste à vous aussi. Qu'est-ce qui devrait être sur le patrimoine immatériel de l'UNESCO du Québec? Parce qu'il n'y a rien, puis c'est pas acceptable. On va compléter la liste avec vos suggestions. Alors, merci d'avoir été présent, Rosalie Chabot. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours un plaisir.
Félix-Antoine Audet, on se dit à la semaine prochaine.
Ah, j'aime ça, mon Dieu, je me sens important de me faire dire mon nom comme ça. Merci d'avoir été à l'écoute, chers auditeurs et auditrices.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on te parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Droit de parole, c'est l'émission de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval dans laquelle on reçoit des comités de notre association étudiante, des professionnels et des membres de notre faculté afin de démystifier les divers domaines du monde juridique. Tu as toujours voulu savoir si les études en droit étaient dignes de Legally Blonde? Tu te demandes si les avocats ont vraiment une carrière comme celle que tu vois dans Suits? Tu es simplement intéressé par l'actualité et le domaine juridique? Tu es donc invité à la barre pour écouter Droit de parole tous les jeudis de 13h à 14h sur les ondes de Chiz